Gilles Paris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, mais pas seulement. Vous avez découvert avec le roman Autobiographie d'une courgette, c'était en quelle année ?
Le roman est paru en 2002 chez Plon.
Et depuis, il s'est vendu à 300 000 exemplaires, toutes éditions confondues. Il est devenu un film, Ma vie de courgette, qui vous a conduit au César, deux récompenses au Festival de Cannes, mais surtout aux Oscars. Et là, vous publiez chez Plon un nouveau roman, ça s'appelle Le Vertige des Falaises. Auparavant, dans tous vos romans, le narrateur était un petit garçon de 9 ans. Mais là, vous avez totalement innové parce que c'est une petite fille de 14 ans qui parle. Pour quelle raison ?
Je crois qu'en fait, j'ai commencé à écrire Le Vertige des Falaises en avril de l'année dernière, qui correspond au mois où j'ai vu pour la première fois Ma vie de courgette en projection, qui était une projection organisée par les producteurs avant le Festival de Cannes où il allait être présenté. Tout de suite, quand j'ai vu le film, et en y réfléchissant, je me suis dit, si j'écris un roman et si je recommence à me mettre dans la peau d'un enfant de 9 ans, je vais donc aller là où on m'attend, après Ma vie de courgette. Et c'est quelque chose que je n'aime pas forcément, d'être là où on m'attend.
Non mais j'étais ironique, Gilles Paris. C'est-à-dire que passer d'un petit garçon de 9 à une fille de 14, c'est pas non plus la transgression totale. Pourquoi pas avoir fait un assassin de 58 ans, une bonne sœur, prêtre tchécoslovaque ?
Parce que c'est un roman choral. Et en fait, le fait d'écrire dans la peau d'un enfant de 9 ans a ses limites, c'est-à-dire que vous ne pouvez utiliser que le vocabulaire de l'enfant et vous ne pouvez pas développer toute la partie romanesque. Tandis que dans un roman choral, vous pouvez aller très loin avec tous les adultes qui font partie de ce roman.
Ça, je ne l'ai pas dit, c'est un roman choral. Chaque chapitre est raconté par un personnage qui parle, lui, à la première personne. Il y a des adultes, évidemment, il y a des mères, des grands-mères. Vous avez eu du mal à écrire à la place d'adultes parce que vous êtes souvent dit, j'ai du mal à écrire dans la peau d'un adulte.
C'est vrai parce qu'on m'a toujours demandé, on m'a toujours dit, ça doit être très difficile d'écrire dans la peau d'un enfant. Et moi, j'ai écrit pendant 40 ans dans la peau d'un enfant. Donc pour moi, j'avais toujours un peu, pas honte, c'est un peu exagéré, mais j'étais toujours un peu gêné de dire non, c'est facile parce que je fais ça depuis 40 ans.
Et alors là ?
Alors que écrire comme un adulte me paraissait extrêmement difficile. Et en fait, comme j'ai voulu pousser la difficulté, en fait, je me suis surtout mis dans la peau des femmes. Il y a une grand-mère, il y a une belle-fille, il y a une fille, il y a une intendante, il y a sa fille aveugle, il y a une fleuriste. Donc j'ai varié la nature des femmes et je me suis énormément amusé.
Vous aimez les hommes ou pas du tout ?
Je les adore.
Je veux dire, pourquoi je vous pose la question ? Parce que c'est fascinant à quel point, dans ce roman, les femmes n'aiment pas les hommes. Olivia, la grand-mère, dit « J'ai perdu un mari et un fils, tous deux si décevants. Même si j'ai du mal à les reconnaître, aucun des deux n'a fait le bonheur de leurs épouses ou de leur mère. » Page 74, vous écrivez « Les hommes sont dégoûtants, les hommes sont violents, les hommes sont stupides. » Et page 55, vous écrivez « Les hommes sont des porcs. »
Exact. Mais je pense que dans une situation très précise, dans la vie d'une femme, à un moment donné, ça dure pas toute la vie, mais ce genre de pensée peut tout à fait effleurer la gente féminine, pourquoi pas ?
Non mais alors si vous adorez les hommes, pourquoi vous êtes mis dans la tête des femmes le fait qu'elles détestent les hommes ?
Parce que je voulais faire un roman où les femmes étaient fortes, puissantes, en même temps avec leur fragilité, leurs failles, et des hommes qui étaient un peu à la ramasse et un peu à la traîne au fond finalement.
Dans Autobiographie d'une courgette déjà, le père partait avec une poule. Je me suis dit, est-ce que cette famille, est-ce que ça se passe comme ça dans la maison, dans la famille Paris ? Parce que là, tous les hommes se barrent avec des... Ils jouent au jeu, ils vont voir des filles de petites vertus.
Alors, je dois dire que mon père et ma mère ont divorcé il y a fort longtemps et mon père est parti avec une call girl qui avait à peu près 20 ans de moins que maman, donc c'était un peu violent pour elle, c'était un peu dur. Et donc le mot poule est revenu assez souvent et j'avoue l'avoir utilisé quand j'ai écrit Autobiographie d'une courgette.
C'est pas vrai, c'est la première fois que vous racontez ça, je l'avais jamais entendu.
Non, je l'ai jamais raconté.
Vous savez quoi ? Pour les gens qui nous écoutent, on n'a même pas dit un mot de l'histoire. Que se passe-t-il dans ce livre ?
Ça se passe sur une île, dans une maison en verre et en acier qui est construite au-dessus d'une falaise. Et le roman commence au milieu de l'histoire. Donc il va falloir retourner dans le passé pour savoir ce qui s'est passé, d'une certaine manière. Et puis bien sûr, aller dans l'avenir dans lequel nous emmène Marnie, qui est le personnage principal, qui est donc cet adolescent dont on a parlé.
Est-ce que vous étiez, pardon de vous demander ça, est-ce que vous étiez faillot quand vous étiez petit ?
Oh non, j'étais pas faillot, j'étais plutôt du genre discret, j'étais plutôt du genre à m'asseoir au fond de la classe.
Je veux dire pourquoi ? Parce que vous saluez le nouveau patron des éditions Plon, Vincent Barbard.
C'est une blague, hein, bien sûr. C'est une blague amicale, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, mais c'est son nom qui m'a frappé.
Dont j'emprunterai, dites-vous, sûrement le nom dans un prochain roman.
Ce qui est fort possible.
Gilles Paris avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Gilles Paris avec nous, romancier qui vient de publier Le Vertige des Falaises. C'est aux éditions Plon, les éditions de ses premières amours, si j'ose dire. Et là, je reviens sur le roman qui a changé votre vie, votre second roman, Autobiographie d'une courgette. C'est devenu un film, Ma vie de courgette, multi-récompensé en France et à l'étranger, deux Césars, une nomination aux Oscars. Comment avez-vous vécu les Oscars ? D'abord, est-ce que vous étiez dans la salle à Los Angeles ou devant votre télé ?
J'étais ni aux Oscars ni aux Césars. J'ai pas été invité, tout simplement.
Ah bon ?
Mais Je comprends, parce qu'il y a des places, voilà, il y a des producteurs.
Mais est-ce que vous étiez devant la télé?
Alors, j'étais devant la télé pour les Césars, j'étais en caleçon et en t-shirt, et j'ai hurlé dans ma chambre, évidemment, parce que je pense que j'aurais été au César, j'aurais pas hurlé. Mais là, j'ai pu hurler dans ma chambre et c'était formidable.
Juste un mot, que vient faire ce détail, le caleçon et le t-shirt?
Pour montrer que j'étais à l'aise et tranquille et non pas en smoking.
Et pour les Oscars, vous étiez devant la télé?
Non, j'étais pas devant la télévision parce que j'ai pas Canal+, et j'étais persuadé que tous mes amis l'avaient, donc j'ai passé une vingtaine de coups de fil à peu près, et ils m'ont tous dit les uns après les autres qu'ils étaient des abonnés totalement de Canal, et que je ne pouvais donc pas aller chez eux sur un canapé de fortune. Donc je me suis dit, je vais aller passer la nuit à l'hôtel, tant pis, et j'ai fait tous les hôtels du 16e arrondissement, et aucun n'avait Canal+. Pareil, les hôtels, c'était entièrement des abonnés de Canal. Bon, on se dit que voilà, et j'ai pas pu finalement regarder la cérémonie, mais le lendemain matin, j'ai ouvert mon portable, et c'est au nombre de textos que j'ai su qu'on n'avait pas l'Oscar du film.
Autobiographie d'une courgette, ça raconte l'histoire d'un petit garçon, Icar, surnommé Courgette, qui a tué sa maman et que l'on place dans un centre de redressement. Et alors la première surprise, c'est pas votre autobiographie.
Non, et c'est une nouvelle que j'ai écrite à l'âge de 14 ans, qui s'appelait Icar et Camille, qui n'avait pas tout à fait le développement du roman. Et quand j'ai voulu écrire le roman, j'ai travaillé pendant un an avec une maison d'accueil, parce que je ne connaissais absolument rien aux maisons d'accueil. Et je voulais pas commettre d'impair, je voulais pas raconter cette histoire sans me documenter. Et j'ai travaillé avec la directrice de cette maison d'accueil qui s'appelle Les Pressoirs du Roi, qui est à côté de Fontainebleau, qui m'a ouvert ses portes, qui m'a fait rencontrer les éducateurs, qui m'a fait passer du temps avec les enfants. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire le livre à chaud, tout en allant les voir tous les week-ends.
Mais pourquoi ce surnom de Courgette?
C'est parce que
déjà, pourquoi un surnom?
Parce que tous les enfants ont un surnom à un moment donné ou à un autre quand on est petit. Moi, c'était Poulet. Parce que tout simplement, on avait fait une journée costumée. Tous les enfants s'étaient déguisés en un animal. Et j'avais peint un melon que j'avais caché sous mon t-shirt. Et à un moment donné où je faisais mon tour de piste, je me baissais, je faisais une sorte de squat. Je me baissais et finalement, je lâchais mon melon comme un œuf. Et voilà, et donc ça fait rire tout le monde. Et on m'avait surnommé Poulet. C'est resté longtemps d'ailleurs.
Il faut quand même que je dise que vous avez une double vie. Vous avez un vrai métier, on va pas se mentir, on se connaît depuis près de 30 ans, car vous êtes un attaché de presse très connu dans le milieu de l'édition. Vous défendez des écrivains aussi importants et divers que Salman Rushdie, François Sagan, Philippe Soler, Depardieu, qui est pas proprement parlé un écrivain, mais c'est une figure. Est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué que les autres?
Sagan.
Pourquoi?
Parce que d'abord, quand j'étais quand j'ai commencé à lire, j'ai lu tout Sagan et j'étais absolument fan de ses romans et de ses nouvelles.
Vous connaissez le mot de La Rochefoucauld, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, vous n'avez pas été déçu par elle?
Non, jamais. Parce qu'on s'est beaucoup vus, on est devenus amis, on a beaucoup joué aux cartes. J'ai passé beaucoup de soirées chez Françoise et à l'époque avec son ami qui habitait dans le 16e, on passait beaucoup de temps ensemble et je vivais seul à l'époque, j'étais seul, j'avais un peu des soucis bancaires parce que j'avais tendance un peu à dilapider l'argent et je m'étais retrouvé avec un découvert et par le hasard de la situation, j'avais dû en parler à Françoise un jour. Et je reçois un jour un coup de fil à 2h du matin chez moi, je dormais littéralement. Et en fait, c'était l'ami de Françoise qui me proposait de venir vivre chez Françoise et en échange de couvrir toute la partie bancaire, ce découvert incroyable que j'avais, si j'acceptais de venir vivre chez Françoise. Et j'ai beaucoup hésité, mais j'y suis allé.
Vous avez vécu combien de temps chez elle?
Je suis resté un mois à peu près. Je suis resté un mois, ça a été un mois dément.
Mais expliquez la contrepartie. Quel rapport entre le fait qu'on éponge une dette et le fait d'aller déménager temporairement?
C'était pour me rendre un service et moi je leur rendais le service d'être avec elle.
De votre présence?
De ma présence, absolument au quotidien.
Gilles Paris est avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Gilles Paris avec nous qui vient de publier Le Vertige des Falaises et son 4e roman, c'est chez Plon. C'est vrai que vous avez commencé à tenir un journal intime à l'âge de 10 ans?
Oui, c'est vrai, je me demande bien ce que je devais y mettre parce que ce dont je me souviens c'est que mon père l'a trouvé alors que je l'avais profondément caché au fond d'un placard et du coup je l'ai brûlé. Donc je ne sais même plus ce qu'il y avait dedans.
C'est idiot parce que ça allait être ma question. Qu'est-ce qu'il y avait dedans?
J'en sais rien, je m'en souviens pas. Ça devait pas être très intéressant à 10 ans quand même.
Des nouvelles, à 15 ans vous avez commencé à en écrire.
12 ans.
C'est vrai?
12 ans.
Vous avez fait plein de petits boulots?
Énormément. Ça c'est à l'âge de... C'est juste après mon bac à 17-18 ans.
Vous avez eu le bac?
J'ai eu le bac, de justesse.
Est-il vrai que vous avez travaillé en usine?
Oui, j'ai travaillé 6 mois en usine dans le 18e arrondissement. J'emballais des outils de précision, je mettais le polystyrène dans les cartons. Et des fois, je déposais les outils de précision à l'intérieur du polystyrène, mais c'était un travail à la chaîne et ça allait très très vite.
Mais comment se fait-il que vous soyez allé là-bas en ayant fait des études et en venant d'un milieu plutôt bourgeois,
aisé ? Parce que j'avais besoin d'argent pour payer mon loyer et que j'ai pris tout ce qui venait à ce moment-là. Et je passais par une agence intérimaire et qui m'avait trouvé ce boulot et j'ai dit oui.
Vous avez travaillé chez Dior aussi, c'est vrai ?
Oui, j'ai organisé le dossier de presse du 40e anniversaire de Dior.
Ah là, c'était pour la presse, c'était pas à l'usine Dior ?
Non, là, c'était pas à l'usine, c'était j'avais plusieurs moniteurs, plusieurs télévisions chez moi qui m'avaient été passées et je devais retrouver en fait toute cette documentation et l'insérer dans un dossier de presse.
Est-il vrai que vous avez été testeur de médicaments ?
Je l'ai fait pas mal de temps, c'était très très bien
vous
payé.
Vous testiez quoi ?
En fait, c'était un immeuble dans le 16e qui était vraiment extrêmement surveillé et les médecins faisaient vraiment attention à nous. J'ai testé de tout. J'ai testé des anti-ulcères, des antidépresseurs. Et alors, on vous met dans des conditions particulières. Par exemple, l'antidépresseur, c'était assez génial. On vous met un casque sur les oreilles et on vous fait lire un livre psychanalytique où il y a beaucoup de Y, de X, de Z, un peu les mots pour le Scrabble. Et en fait, au fur et à mesure que vous lisez les phrases, on vous met tout ça en écho. Donc, dans le casque, tout est répété à l'infini. Et vous devenez dingue. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça va vraiment plus. Et alors, ce qui était drôle, c'est qu'on était 5 à faire ça. Il y en avait 4 qui avaient du placebo et un seul qui avait le vrai médicament. Donc, parce qu'il fallait vérifier que le médicament avait un effet et pas le placebo.
Et après, vous étiez dans quel état ?
Après, on était dans un état second. Il fallait un certain temps avant de s'en remettre. Et l'anti-ulcère, c'était pas mal non plus parce qu'on vous faisait avaler un énorme tuyau dans la gorge qui allait jusqu'à l'estomac avec une caméra qui venait photographier tout ça. Mais à l'époque, par exemple, c'était payé entre 3 et 4 000 francs l'après-midi. Donc, c'était un job en or.
Presque 3 ou 4 000 euros de maintenant.
Voilà, exactement.
Est-il vrai que vous avez, ça n'a rien à voir, que vous avez donné votre sperme pendant 10 ans ?
12 ans.
12 ans ?
Ouais.
À qui ?
À des gynécologues. Il n'y avait pas de loi à l'époque, il faut le savoir. C'est un truc absolument incroyable. Et en fait, les couples qui déposaient un dossier à la banque du sperme, qui était l'organisme officiel, attendaient beaucoup trop de temps avant d'avoir des réponses. Et les gynécologues ont compris qu'il y avait une manne, qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, on nous a appelés les donneurs sauvages. On était sur les calepins des gynécologues à la lettre S comme sperme. Et donc, voilà, moi j'étais un garçon avec des cheveux bruns, des yeux marrons. Mais il y avait tout, il y avait des yeux bleus, des yeux verts, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, on donnait notre sperme. Moi, j'y allais à peu près 4-5 fois par semaine.
C'était bien payé ?
C'était super bien payé. C'était payé à peu près l'équivalent de 300-350 francs par chaque fois que j'y allais.
C'était dans quelles années ?
C'était les années 80 jusqu'à 1992 exactement.
Et alors, vous savez si vous avez eu des enfants ?
Oui, parce que en fait, jusqu'aux années 85, c'est-à-dire les années SIDA, on va dire, les cabinets de gynécologues s'étaient développés d'une manière incroyable par rapport à ça. Et à partir des années SIDA, beaucoup ont freiné, ce qui est un peu logique en soi. Moi, j'avais régulièrement droit à des tests et des examens et tout ça. J'ai continué avec un cabinet, j'avais commencé avec eux, je m'entendais plutôt bien avec tous ces médecins, on prenait un verre de temps en temps, donc ils ont fini par me dire quand ça marchait.
Ouais.
Donc j'ai appris que j'avais fait naître 148 enfants
entre
1980 et 1992.
On vient de me donner le résultat du calcul derrière la vitre, c'est des gens qui ont entre 25 et 37 ans.
Ouais.
Et donc, je m'adresse aux auditeurs, si vous avez un petit doute sur votre personne, allez voir la tête de Gilles Paris sur le site de France Info, et c'est peut-être votre papa. Ça vous fait peur ?
Non,
vous craignez qu'un jour quelqu'un sonne chez vous, bonjour, je suis ton fils ?
Non, j'y crois pas une seconde.
Vous lui direz quoi dans ce cas-là ?
Je dirais, je suis pas ton père, mais on peut en discuter.
Magnifique. Merci beaucoup, Gilles Paris, d'être venu nous voir.
Merci à vous.